La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Prédication protestante sur Radio Présence. Je m'appelle Vincent Miéville et je suis pasteur de l'Église évangélique libre de Toulouse. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je suis assez fatigué. Fatigué de la cacophonie ambiante, fatigué des discours excessifs, irrationnels des uns, du ton de donneur de leçons des autres. Je suis fatigué des disputes, des revendications et contestations de tout poil, fatigué de l'agressivité globale qu'on constate un peu partout, fatigué des dialogues de sourds où l'écoute et la bienveillance n'ont plus leur place. Et dans ce tumulte ambiant, j'ai besoin de paix et d'apaisement. Et je me dis que je ne suis sans doute pas le seul à en avoir besoin. Alors je vous propose, pendant quelques minutes, de parler de la paix de Dieu, la paix qu'on reçoit et la paix que l'on donne. Et commençons donc par la paix que l'on reçoit, celle que Dieu nous donne, celle dont Jésus parle à ses disciples peu de temps avant d'être arrêté et condamné pour être crucifié. Ce sont des paroles de paix, dites dans un temps de trouble et d'inquiétude. Nous les trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, au verset 26 à 29. Jésus dit « Celui qui doit vous venir en aide, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne. » Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Vous m'avez entendu dire « Je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de savoir que je vais auprès du Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai annoncé maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Quand il s'adresse à ses disciples, Jésus utilise une formule qui m'intéresse particulièrement. On la trouve au verset 27 de Jean 14. « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. » On l'a dit, ces paroles de Jésus font partie des dernières qu'il a dites à ses disciples juste avant son arrestation. Jésus sait que sa fin est proche. Et on se rend compte d'ailleurs que ses disciples perçoivent bien que c'est un moment spécial. On les sent inquiets, préoccupés. Ils sentent que quelque chose va se passer. Et Jésus veut les rassurer. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés. Oh, c'est pas la première fois que Jésus dit à ses disciples « N'ayez pas peur ». Il l'a dit, par exemple, lors de la transfiguration, cet épisode étonnant lorsque sur la montagne, Jésus est apparu éclatant de gloire devant quelques-uns de ses disciples. Il l'a dit aussi lorsqu'il a marché sur l'eau et que ses disciples croyaient que c'était un fantôme. Ce n'est pas non plus la dernière fois que Jésus dira « N'ayez pas peur », puisqu'il leur redira à ses disciples « après sa résurrection, lorsqu'il leur apparaîtra, et que ses disciples n'en croient pas leurs yeux. N'ayez pas peur. Plus largement, dans la Bible, c'est une phrase, au singulier ou au pluriel, qui est très courante. Certains en ont même dénombré 365 occurrences, une pour chaque jour. C'est bien que nous avons besoin de l'entendre et de le réentendre. N'ayez pas peur. Ces paroles nous font du bien, aujourd'hui aussi, peut-être même particulièrement aujourd'hui, alors que tant de discours qui manient la peur résonnent partout autour de nous. La peur de la mort, La peur d'une pandémie dont on ne sortirait jamais, la peur du complot ou de la dictature qu'on brandit comme des épouvantails. Mais la peur et la paix ne peuvent pas coexister. Alors Jésus nous dit « N'ayez pas peur ». Ce que Jésus veut laisser à ses disciples au moment de les quitter, c'est sa paix. Il leur donne sa paix et il précise qu'il ne la leur donne pas à la manière du monde. Que veut-il dire par là? Eh bien, chez Jean, le monde peut avoir plusieurs sens. Ça peut être l'humanité dans sa globalité, celle que Dieu a tant aimée qu'il a envoyé son Fils pour la sauver. Mais le mot peut aussi avoir un sens plus péjoratif, et c'est le cas ici. C'est ce monde dont Jésus parle quelques versets plus haut, un monde incapable de voir et de connaître Dieu parce qu'il ne le reçoit pas. C'est ce monde dont Jésus parlera un peu plus tard à ses disciples, disant qu'il les détestera comme il l'a détesté lui. C'est un monde qui est encore là, qui n'a pas vraiment changé. Ce monde aujourd'hui, c'est ce monde impitoyable et froid, ce monde où le pouvoir, les jeux d'influence, l'argent écrasent l'humain, un monde dans lequel on ne donne pas, où ce qui est gratuit dissimule toujours une contrepartie plus ou moins cachée. Un monde dans lequel la grâce n'existe pas. La paix que peut donner ce monde-là, elle se paye, elle se monnaie. Et ce n'est pas de cette manière que Jésus veut donner sa paix. Il faut ici préciser que ce monde dont on parle n'est pas forcément extérieur à nous. Il n'y aurait pas d'un côté les croyants qui seraient toujours proches de Dieu et dont le comportement serait irréprochable, et de l'autre le monde dont il faudrait se méfier et même se couper parce qu'il nous éloignerait de Dieu. Et non, les frontières sont poreuses. Le monde dont parle Jésus ici, on le trouve aussi en nous, on le trouve aussi dans l'Église, où les relations ne sont pas toujours animées par la grâce. Mais Jésus, lui, n'est pas de ce monde. Il ne donne pas comme le monde donne. Sa paix, il nous l'offre. Il donne ce qu'il promet, sans contrepartie. Sa paix, elle découle de la grâce. Cette paix que Jésus donne, quelle est-elle? Et comment la donne-t-il? Eh bien, cette paix dont Jésus parle ici, elle est sans doute d'abord celle qui découle de sa présence. Et Jésus est en train de dire à ses disciples « Oui, je m'en vais, mais je serai toujours là avec vous. Je m'en vais en chair et en os, mais je serai avec vous par mon esprit, et cet autre consolateur que Dieu enverra, eh bien, il sera là avec vous. » Il le dit explicitement au verset 18, « Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. » La paix que Jésus donne, c'est celle de sa présence auprès de nous, en toutes circonstances. « Je suis avec vous, n'ayez pas peur. Je vous offre ma présence, sans contrepartie cachée. » C'est une paix dans l'épreuve, face à l'adversité, que l'on n'affronte jamais seul. C'est une paix devant l'inconnu, face à l'incertitude, car celui qui est auprès de nous connaît toutes choses et rien ne lui échappe. C'est une paix face à la mort, parce que le Christ vivant est ressuscité, il a vaincu la mort. Cette présence du Christ à nos côtés en toutes circonstances, c'est la garantie de sa paix. Une paix que le monde ne peut pas donner, une paix que nul autre ne peut donner, une paix qui se reçoit par la foi, qui s'affermit dans la confiance, une paix que nous pouvons vivre dans une relation avec le Christ vivant, quel que soit le tumulte du monde qui nous entoure. Vous êtes à l'écoute de la prédication protestante sur Radio Présence et j'ai voulu aujourd'hui évoquer la paix dont nous avons besoin, la paix de Dieu, celle que l'on reçoit de lui, mais aussi celle que l'on donne. Cette paix qui est possible en toutes circonstances est sans doute un des biens les plus précieux que procure la foi. Et la recevoir dans l'épreuve, dans l'adversité ou face à l'inconnu, c'est un véritable cadeau de Dieu, une paix que le Christ nous donne et qu'il garantit par sa présence à nos côtés, à chaque instant, une paix qui dépasse toutes circonstances. Mais nous ne pouvons pas en rester là. En tant que croyants, il faut aller plus loin. Comment pourrait-on se contenter de recevoir la paix de Dieu et la garder pour soi, pour son confort spirituel personnel ? Il me semble qu'on ne peut pas recevoir la paix de Dieu sans réfléchir à la façon dont nous pouvons la partager, la transmettre autour de nous. Et il y a une parole de Jésus qui l'exprime avec force. Matthieu 5, verset 9. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. » C'est une béatitude. Ces paroles qui ouvrent le sermon sur la montagne et qui constituent comme une charte du royaume de Dieu. C'est un peu la description d'un idéal pour le croyant et contiennent des formules parfois étonnantes. « Heureux les humbles de cœur », parfois paradoxales. « Heureux ceux qui pleurent », « Heureux ceux qu'on persécute ». Mais elles se terminent toujours par une promesse, avec toujours la même structure, « Heureux, car ». Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. La septième béatitude, citée par Jésus au début du sermon sur la montagne, nous parle de la paix. Et pas seulement de la paix que l'on reçoit, mais aussi de la paix que nous sommes appelés à donner à notre tour. Il y a la paix que l'on reçoit de Dieu et la paix que l'on donne à notre prochain. L'une ne va pas sans l'autre. Et c'est pourquoi le croyant est appelé à être artisan de paix. Une belle expression qu'il nous faut décrypter pour bien la comprendre. Et je propose de le faire à partir de trois questions. Qu'est-ce qu'un artisan de paix ? Pourquoi les artisans de paix seront-ils appelés enfants de Dieu ? Et en quoi les artisans de paix sont-ils heureux ? Commençons donc par la première question. Qu'est-ce qu'un artisan de paix ? Le terme grec utilisé ici ne se trouve pas ailleurs dans la Bible. C'est un terme composé du mot grec pour la paix et du verbe qui signifie « faire ». Et il est traduit de différentes façons dans les versions françaises. On parle de ceux qui procurent la paix, de ceux qui font œuvre de paix, de ceux qui répandent la paix autour d'eux, de ceux qui font la paix autour d'eux, ou, dans la version que j'ai choisi de lire tout à l'heure, les artisans de paix. Et c'est sans doute cette dernière traduction que je préfère. Elle exprime bien le fait que la paix, eh bien, ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, sans que ça nous coûte, sans que ça demande du travail. Au contraire, la paix, ça se fabrique, ça se façonne, ça demande du temps, tout comme le travail d'un artisan. On pourrait même comparer la paix à un objet artisanal. C'est une pièce unique. Elle doit trouver sa forme adaptée à chaque situation. Il n'y a pas de moule universel de la paix qui fonctionnerait partout et toujours. Un artisan de paix, c'est quelqu'un qui sait mettre à profit son expérience, son savoir-faire, et qui sait prendre le temps qu'il faut pour façonner la paix qui convient à une relation, dans un groupe de personnes, dans une situation peut-être conflictuelle. Et si la paix se façonne et se construit, c'est qu'elle n'est pas simplement l'absence de quelque chose. Elle doit être quelque chose en plus. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de conflit. C'est la réconciliation. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de rancune. c'est le pardon. La paix, c'est la plénitude d'une relation restaurée. Et d'ailleurs, le mot hébreu « shalom », qu'on traduit habituellement par « paix », évoque cette idée de plénitude. Et c'est pour cette raison que la paix parfaite est celle qui découle de la plénitude de la présence de Dieu dans notre vie. Les artisans de paix sont ceux qui savent apporter un peu de cette plénitude à ceux qu'ils côtoient. Pourquoi donc ces artisans de paix seront-ils appelés enfants de Dieu? C'est la deuxième question. Eh bien parce que, sans doute, le premier artisan de paix, c'est Dieu lui-même. Toute l'histoire biblique témoigne de ce long travail de Dieu pour restaurer la paix brisée avec ses créatures, avec son peuple. C'est un véritable travail d'artisan, adapté parfaitement à la situation. Et Dieu a d'une certaine façon mis les mains dans le cambouis par l'incarnation en devenant être humain. L'œuvre de paix de Dieu a atteint sa plénitude dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, une œuvre de salut, de pardon, de réconciliation. Celui qui est artisan de paix au nom du Christ montre qu'il a appris de l'exemple suprême. Il sera appelé enfant de Dieu parce qu'il aura agi comme son Père. Bien sûr, on peut se dire alors du coup, mais est-ce qu'il n'y a que les chrétiens qui puissent être artisans de paix? Mais non, certainement pas. On le sait bien. En tenant compte de cette béatitude de Jésus toutefois, ne pourrait-on pas dire que ceux qui sont artisans de paix, même sans être croyants, agissent en enfants de Dieu sans le savoir? Ils agissent conformément à l'image de leur Créateur, profondément inscrite en eux. Alors le croyant, lui, est enfant de Dieu, non pas seulement parce qu'il est créé à l'image de Dieu, mais aussi par sa foi en Jésus-Christ. Et si les artisans de paix sont appelés enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu par la foi sont aussi appelés à être artisans de paix. Il faut être cohérent, ce n'est pas une option. C'est lié à notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est sans doute pour cela que l'apôtre Paul est sévère autant dans ses lettres envers ceux qui amènent le trouble et la division dans les églises. Si les enfants de Dieu ne sont pas des artisans de paix, mais des fauteurs de trouble, quelle image de Dieu cela renvoie-t-il? Mais n'oublions pas que notre texte est une béatitude. Jésus dit des artisans de paix qui sont heureux. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la troisième question. Il suffit de lire l'ensemble des béatitudes pour comprendre que Jésus n'est pas en train de dire qu'ils auront une vie facile, sans difficulté, étant toujours dans la joie. Dans les paroles de Jésus, sont heureux aussi ceux qui pleurent et même ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Non, il me semble que être heureux, selon les béatitudes, c'est d'abord être en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi il y a ces promesses qui sont associées à chacune des béatitudes et qui expriment l'approbation de Dieu. Ils sont heureux, les artisans de paix, parce qu'ils font l'œuvre du Dieu d'amour et de paix. Ils sont heureux parce qu'ils recevront l'approbation de leur Créateur. Être heureux, du coup, c'est aussi être en paix avec soi-même, en vivant en accord avec ce que nous sommes, des créatures faites à l'image de Dieu. Ils sont heureux, les artisans de paix, parce qu'ils se conduisent en accord avec cette image de Dieu inscrite au plus profond d'eux. Le Seigneur est un Dieu de paix. Nous sommes faits pour la paix et non le conflit. Ils sont heureux, les artisans de paix, parce que la haine, la rancune, la jalousie sont des émotions délétères qui nous détruisent à petit feu. Alors parler de la paix de Dieu, c'est parler d'une paix qu'on reçoit et d'une paix que l'on donne. Redisons-le, cette paix qui découle de la présence du Christ à nos côtés en toutes circonstances est un des biens les plus précieux que procure la foi. Mais cette paix de Dieu qui fait de nous pleinement ses enfants nous responsabilise. Nous ne pouvons pas seulement la recevoir, même si elle nous est largement accordée par Dieu, nous devons aussi la donner autour de nous, la façonner dans nos relations. Nous sommes appelés à être des artisans de paix. Et c'est ainsi que nous serons vraiment, par notre conduite, des enfants de Dieu. Et alors nous serons heureux. heureux d'accomplir la volonté de Dieu, heureux de manifester envers notre prochain un peu de l'amour et de la paix de Dieu que nous avons reçu, heureux d'accomplir notre vocation d'homme et de femme créée à l'image de Dieu, des artisans de paix au nom du Dieu de paix. Nous serons heureux et en paix, aujourd'hui et pour toujours.
Du roi sauveur, bienheureux vous qui versez des pleurs, bienvenue près du consolateur, bienheureux être plein de douceur, bienvenue héritier du Seigneur, bienheureux vous qui brisez le droit. Bienvenue, Dieu vous rassasira. Bienheureux artisans de pardon. Bienvenue, invités du Dieu bon. Bienheureux vous dont le cœur est saint. Bienvenue, voyez Jésus revient. Et je sais votre Père. Votre cœur.